Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 33. Il existait à cette époque à Casterbridge une coutume joviale qui, pour n'être point officiellement reconnue, n'était pas moins solide. Les après-midi de dimanche, nombre de journaliers de la ville, hommes rassis et piliers d'église, traversaient la rue au sortir du service pour se rendre à l'auberge des Trois Matelots. L'arrière-garde de leur petite troupe était en général formée par les musiciens du chœur, avec basse de viol, violon et flûte sous le bras. Le gros point, le point d'honneur, au cours de ces agapes sacrées, était pour chaque buveur de limiter strictement sa consommation à une demi-pinte. L'hôtelier comprenait si bien ce scrupule qu'il servait toute la compagnie dans des récipients de cette capacité. C'étaient des gobelets tous semblables, à face plane, avec des tilleuls défeuillés gravés en brin d'anguille sur deux de leurs côtés, l'un regardant le buveur, l'autre en face de son camarade. Les enfants supputaient comme une chose merveilleuse le nombre de ces gobelets que pouvait posséder l'auberge. En ces après-midi de dimanche, on en voyait, dans la vaste pièce, 40 à la fois, rangés en cercle sur l'immense table de chêne à 16 pieds, comme les monolithes de Stonehenge à leur origine. Un cercle de 40 bouffées de fumée, sorti de 40 pipes en terre, doublait celui des 40 verres, et derrière les pipes apparaissaient les visages de 40 fidèles qui s'appuyaient à 40 dossiers de siège. La conversation n'était pas celle des jours de semaine. C'était une causerie d'un objet plus noble et d'un ton plus relevé. On discutait invariablement le sermon. On le disséquait, on le pesait, on l'évaluait au-dessus ou au-dessous de la moyenne des sermons, et la tendance générale était d'y voir un exploit, un tour de force scientifique, dont l'unique rapport avec la vie de l'auditoire était celui qui existe entre un esprit critique et l'objet critiqué. Le joueur de basse et le sacristain parlaient en général avec plus d'autorité que leurs camarades, du fait de leur relation officielle avec le prédicateur. C'est l'auberge des Trois Matelots qu'Henchard avait choisi aussi pour la clôture de sa longue période d'abstinence. Il avait calculé son temps de façon à se trouver installé dans la vaste pièce à l'heure où les 40 piliers d'église viendraient prendre devant leur verre leur place accoutumée. Le feu de son visage proclamait qu'au terme d'un vœu ancien de 20 ans, il inaugurait une ère de folie nouvelle. Il était assis à une petite table, placé contre le monument massif de chêne réservé aux fidèles habitués, dont certains lui faisaient au passage un petit signe de tête et s'étonnaient tout haut. « Comment cela va-t-il, monsieur Henchard? Vous êtes nouveau venu ici ?» Henchard ne prit pas tout d'abord la peine de répondre. Il gardait les yeux fixés sur ses pieds et ses jambes qu'il allongeait devant lui. Mais il finit par se décider. « Oui, » fit-il. « C'est vrai, j'étais bien abattu depuis des semaines et certains de vous savent pourquoi. Je me sens mieux maintenant. » Mais pas tout à fait d'aplomb encore. Je voudrais que vous, les musiciens, dont vous nous jouiez un air. Avec cela et avec la boisson de Stanage, j'espère bien arriver à chasser mes papillons noirs. De tout mon cœur, répondit le premier violon. Nous avons détendu nos cordes, c'est vrai, mais on peut bien les retendre. Allons, voisin, donnez-le là, on va lui jouer quelque chose. Je me moque des paroles, fit Henchard. Hymne, ballet ou pot pourri, marche des bandits ou berceuse. Cela m'est fort égal, pourvu que la musique soit bonne et bien exécutée. Hé hé, peut-être bien qu'on peut faire cela pour vous. Il n'y en a pas un d'entre nous qui ait au moins 20 ans de tribune, fit le chef de musique. Comme c'est dimanche, voisin, on pourrait jouer le psaume 4e avec la musique de Samuel Wakely, revue par moi. Au diable la musique de Samuel Wakely, revue par toi, s'écria Henchard. Passez-moi un de vous psautiers. Les vieux airs du Wiltshire sont les seuls qui vaillent la peine d'être entendus. Ce sont ces airs-là qui faisaient monter et descendre mon sang comme la mer, au temps où j'étais un homme solide. Je vous trouverai les paroles pour aller avec. » Et, prenant un psautier, il se mit à en feuilleter les pages. Regardant à ce moment par la fenêtre, il vit passer tout un groupe de gens. C'était la congrégation qui venait de sortir de la grande église, après un sermon plus long que celui dont avait été gratifié l'auditoire de la petite paroisse. Parmi d'autres notables de la ville s'avançait monsieur le conseiller Farfrey, qui donnait le bras à Lucetta, la femme admirée et copiée par toutes les épouses des petits négociants. La bouche d'Henchard eut un mouvement convulsif, et il continua à tourner les pages de son livre. « Tenez, » fit-il, « psaume 109e sur notre musique du Wiltshire, versets 10 à 15. Je vais vous lire les paroles. « Que ses fils soient orphelins et sa veuve plongée dans la douleur. Qu'ils s'en aillent mendier leur pain et que personne ne leur vienne en aide. Que ses richesses mal acquises deviennent la proie des usuriers et que le fruit de son travail soit pillé par les étrangers. Qu'il n'y ait personne pour compatir à la rigueur de sa misère ou pour tendre à ses orphelins errants une main secourable. Une destruction brutale s'abattra sur sa malheureuse race et, dès la génération prochaine, son nom exécré sera effacé. « Je connais le psaume, je le connais, » fit vivement le chef. « Mais j'aimerais mieux ne pas le chanter. Il n'est pas fait pour être chanté. On l'avait choisi un jour pour faire plaisir au pasteur, à qui un gypsy venait de voler sa jument, mais il en avait été tout retourné. À quoi songeait David le serviteur quand il a écrit un psaume qu'on ne peut pas chanter sans honte? Je ne puis l'imaginer. Allons, le 4e psaume sur la musique de Samuel Wakely, revu par moi. « Que le diable emporte l'impertinent !» hurla Henchard. « Je vous dis de chanter le psaume 109 sur la musique du Wiltshire, et vous le chanterez. Je ne laisse pas sortir un seul de votre bande de fainéants avant que vous ne m'ayez chanté ce psaume-là » Il quitta la table, saisit le tisonnier et alla s'adosser à la porte. « Et maintenant, allez-y si vous ne voulez pas que je brise vos sacrées caboches !» Voyons, voyons, ne prenez pas les choses comme cela. Après tout, c'est le jour du sabbat, et les paroles sont de David et pas de nous. Alors, pour une fois, on pourrait peut-être essayer, hein ? Proposa l'un des musiciens terrifiés, en regardant ses camarades. Ils accordèrent leurs instruments et chantèrent les paroles comminatoires. « Merci, merci !» fit d'un ton radouci Henchard, qui avait baissé les yeux et paraissait fort ému par la musique. « Ne blâmez pas, David, » continua-t-il d'une voix sourde, en hochant la tête, sans lever les yeux. « Il savait bien ce qu'il faisait quand il a écrit cela. Si j'avais de quoi, je vais être pendu si je n'entretiendrais pas un orchestre à mes frais pour me jouer et me chanter dans les époques tristes et sombres de ma vie. Seulement, l'absurdité, c'est que lorsque j'étais riche, je ne me souciais pas de ce que j'aurais pu avoir. Et maintenant que je suis pauvre, je ne puis avoir ce que je désirerais. » Pendant le silence qui suivit, on vit repasser Farfrae et Lucetta. Ils rentraient chez eux après avoir fait, entre la sortie de l'église et l'heure du thé, leur petit tour accoutumé sur la route avec d'autres bourgeois. « Voilà l'homme dont parle le psaume que nous venons de chanter, » fit Henchard. Instrumentistes et chanteurs tournèrent la tête. « Dieu nous en préserve !» s'écria le joueur de basse, en réalisant le sens de ses paroles. « Si, c'est bien cet homme-là » répétait Henchard avec obstination. « Eh bien, déclara solennellement le joueur de clarinette, si j'avais cru que cette malédiction s'adressa à un être vivant, rien n'aurait pu me faire tirer un souffle de mon tuyau pour jouer ce psaume-là, mais de le ciel. »« Ni à moi non plus, » affirma le premier chanteur. « Seulement, je me disais qu'il a été écrit si loin et depuis si longtemps qu'il ne signifiait plus grand-chose, et que je pouvais bien faire plaisir à un voisin, car il n'y a rien à dire contre la musique. »« Ah, mes enfants, vous l'avez chanté !» triompha Henchard. Quant à lui, c'est en partie par ses chansons qu'il a pu me supplanter et me pousser dehors. Je pourrais le briser comme ceci, mais je ne le fais pas. » Il posa le tisonnier sur ses genoux, le tordit comme un frêle rameau, le jeta par terre et s'éloigna de la porte. C'est à ce moment précis qu'Élisabeth entra dans l'auberge. Elle venait d'apprendre où se trouvait son beau-père et son visage était pâle et douloureux. Fidèle à la règle de la demi-pinte, musiciens et autres buveurs de leur société se levaient pour partir. Henchard marchait d'un pas incertain, comme un aveugle, et chantonnait les dernières paroles du psaume. « Et dès la génération prochaine, son nom exécré sera effacé. » Élisabeth alla droit à lui et le supplia de rentrer avec elle. L'ex-mère n'avait bu encore que de façon modérée, et le feu volcanique s'était éteint dans son cœur. Il acquiesça sans trop de peine au désir de la jeune fille, qui prit son bras pour l'emmener. Il grommelait « Je suis un homme de parole. 20 ans j'ai tenu mon serment, et aujourd'hui je puis boire sans remords. Si cela ne lui convient pas, je lui montrerai que je sais jouer des tours terribles quand je veux. Il m'a tout pris, et par le ciel, si je le rencontre, je ne puis pas répondre de moi-même. » Ces paroles confuses effrayèrent d'autant plus Élisabeth qu'elle remarquait sur le visage de son beau-père un air de froide résolution. « Que feriez-vous donc » demanda-t-elle prudemment, malgré l'inquiétude qui la faisait trembler. Elle ne comprenait pourtant que trop le sens des menaces d'Enchard. Il ne répondit pas, et ils poursuivirent leur route en silence jusqu'à la chaumière. « Puis-je entrer ? » demanda-t-elle. « Non, non, pas aujourd'hui !» s'écria Enchard, et elle le quitta avec l'impression qu'il était de son devoir de prévenir Farfrae comme elle en sentait le ferme désir. Les jours de semaine, aussi bien que les dimanches, on pouvait voir dans les rues Farfrae et Lucetta courir comme deux papillons, ou plutôt comme un papillon et une abeille, unis pour le combat de la vie. La jeune femme ne semblait prendre plaisir à sortir qu'en compagnie de son mari, et quand les affaires de Donald ne lui permettaient pas de prendre un après-midi, elle restait chez elle et cherchait à tuer le temps en attendant son retour. Elisabeth l'apercevait à travers les carreaux, mais au lieu de se dire que Farfrae devait être heureux d'une telle tendresse, elle retrouvait une citation dans sa mémoire et se répétait les paroles de Rosalinde. « Maîtresse, appréciez votre bonheur, tombez à genoux et rendez grâce au ciel de vous avoir donné l'amour d'un brave homme. » Elle tenait aussi les yeux fixés sur Enchard. Comme elle s'inquiétait un jour de sa santé, il se plaignit de ne pouvoir plus supporter pendant leur travail en commun dans la cour le regard apitoyé d'Abel Whittle. « C'est un tel imbécile, grommelait-il, qu'il ne peut oublier le temps où j'étais le maître ici. »« Je pourrais venir vous préparer les liens à sa place, si vous me le permettiez, » proposa-t-elle. Son but, en l'aidant dans sa besogne, était de pénétrer dans la maison de Farfrae, où travaillait maintenant Enchard, pour se rendre compte de l'état des affaires. Les menaces de son beau-père l'avaient si bien effrayée qu'elle voulait voir son attitude en face de l'Écossais. Elle n'aperçut pas Donald pendant 2 ou 3 jours, mais un après-midi, la porte verte s'ouvrit pour livrer passage à Farfrae, puis à Lucetta, qui marchait sur ses talons. Donald amenait sa femme sans hésitation, car il n'avait pas le moindre soupçon des relations qui avaient existé en un temps entre sa femme et son nouveau butler. Enchard ne tourna pas les yeux, mais les garda fixés sur le lien qu'il tordait, comme si sa besogne seule l'avait absorbé. Le sentiment de délicatesse qui poussait toujours Farfrae à éviter tout ce qui aurait pu ressembler à un rappel de victoire sur un rival déchu, le fit se diriger vers les greniers, en évitant la grange où travaillaient Enchard et sa fille. Mais Lucetta, qui ne savait rien de l'entrée de son ancienne amie au service de son mari, marchait tout droit vers la grange. Elle tomba brusquement sur Enchard et poussa un petit « Ah !» que l'heureux et actif Farfrae était trop loin pour entendre. Avec une sèche humilité, Enchard toucha le bord de son chapeau, comme l'avaient fait Abel Whittle et les autres. Elle répondit à ce salut par un « bonjour » à peine perceptible. « Je vous demande pardon, madame ?» fit Enchard, comme s'il n'avait pas entendu. « Je vous ai dit bonjour, » balbutia-t-elle. « Ah oui, bonjour, madame, » répliqua-t-il, en touchant à nouveau le bord de son chapeau. « Je suis heureux de vous voir, madame !» Et poursuivant, malgré l'embarras visible de Lucetta, « Nous autres humbles travailleurs, nous sentons bien honorés qu'une dame vienne nous voir et s'intéresse à nous. » Elle le regarda d'un air suppliant. Le sarcasme était trop amer, trop intolérable. « Pourriez-vous me dire l'heure, madame ? » reprit-il. « Oui, » répondit-elle avec vivacité. « Il est 4h30. »« Merci bien. Encore 1h30 avant de quitter le travail. Ah, madame, les gens des basses classes comme nous ne connaissent pas les heureux loisirs dont jouissent vos semblables. » Lucetta s'éloigna dès qu'elle le put. Elle sourit en passant et fit un signe de tête à Elizabeth Jane et rejoignit son mari au bout de la cour. Elle l'entraîna bien vite par la porte extérieure pour éviter de repasser devant Enchard. Le résultat de cette rencontre fortuite se traduisit le lendemain matin dans cette missive remise à Enchard par le facteur. « Voulez-vous, » demandait Lucetta avec toute l'amertume que pouvait comporter un billet de quelques lignes, « voulez-vous, si je viens jamais à traverser la cour, avoir l'amabilité de ne pas me parler sur le ton mordant dont vous avez usé aujourd'hui ? Je n'ai nulle rancune contre vous, et suis trop heureuse de vous savoir employée par mon cher mari. Mais la simple loyauté vous commande de me traiter comme sa femme, au lieu de me rendre malheureuse par vos railleries déguisées. Je n'ai pas commis de crime, et ne vous ai pas fait de mal. » « Pauvre folle !» se disait Enchard, en lisant ses lignes avec une colère nuancée d'attendrissement. « Avoir l'imprudence de se compromettre en écrivant cela. Ah ! Si je voulais montrer cette lettre à son cher mari ! Mais bof !» Et il jeta le papier au feu. Lucetta se garda de repasser dans la cour. Elle eût mieux aimé mourir que de courir le risque de se trouver en face d'Enchard. L'abîme qui les séparait se creusait de jour en jour. Toujours animée de bonnes intentions pour son ancien patron, Farfrae ne pouvait manquer à la longue de finir par le traiter comme ses autres ouvriers. Enchard s'en rendait compte, Il dissimulait ses impressions sous un masque de morne indifférence. Il se donnait du cœur en buvant un peu plus, chaque soir, aux Trois Matelots. Dans son désir de l'empêcher de boire, Élisabeth lui apportait souvent, à 5 heures, du thé dans un petit panier. Elle arrivait ainsi un jour, lorsqu'elle vit son père occupé dans un des hauts greniers à mesurer des graines de trèfle et de colza. Elle grimpa l'escalier pour le rejoindre. Chacun des étages comportait une baie ouverte sur le vide. D'une poulie pendait par devant la chaîne qui servait à monter les sacs. En passant la tête par la trappe qui donnait accès au grenier, Élisabeth vit le volet ouvert et Farfrae debout au bord de l'abîme, en conversation avec Henchard, qui se tenait à un pas derrière lui. Pour ne pas interrompre les deux hommes, Élisabeth resta sur l'escalier, sans montrer la tête. Elle se tenait ainsi lorsqu'elle vit, ou crut voir, elle était épouvantée à l'idée de ne pas s'être trompée, son beau-père lever la main à la hauteur des épaules de Farfrae, tandis qu'une expression singulière se peignait sur son visage. Le jeune homme resta inconscient de ce mouvement. L'eût-il remarqué d'ailleurs qu'il eût pu le prendre, tant il était oblique, pour un geste machinal d'Henchard. Mais une poussée relativement faible eût suffi à faire perdre l'équilibre à Donald et à le précipiter la tête la première. Élisabeth se sentait le cœur chaviré à la pensée de ce que pouvait signifier un tel geste. Dès que les hommes se retournèrent, elle porta machinalement le thé à Henchard, le posa près de lui et s'éloigna. Elle s'efforçait de se persuader, en songeant à l'incident, que le mouvement d'Henchard n'avait été qu'une vaine fantaisie et rien de plus. Mais elle sentait aussi que sa subordination, dans une maison où il avait été le maître, pouvait agir sur l'ancien maire comme un poison irritant, et elle finit par se décider à prévenir Farfrae.